Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Et aujourd'hui Thierry Garcin, la Chine, pourquoi le projet de route de la soie est-il global?
Est-il global et quelles sont ses limites? On va voir ça, en quoi est-ce qu'il dépend d'ailleurs de l'économie chinoise par elle-même. Laurence Daziano, bonjour.
Bonjour.
Et merci comme d'habitude d'être toujours, vous n'êtes pas la seule, Dieu merci, toujours en direct avec nous. Vous êtes économiste, maître de conférence à Sciences Po Paris. Alors l'expression route de la soie est peu éclairante géographiquement. D'une part, celles-ci sont terrestres. C'est d'ailleurs un parcours très diversifié quand on regarde les routes d'origine. Et d'autre part, ce sont des routes maritimes. Et on est plus dans la logique d'ailleurs du cabotage le long de l'océan Indien occidental. Alors c'est un projet tout à fait grandiose qui a été lancé en 2013. C'est le projet OBOR, O-B-O-R, acronyme de One Belt, One Road. Le projet du siècle selon les mots du président chinois Xi. Il semble considérable, futuriste, global au moins sur le papier. Il nécessiterait quantité d'argent. Les banques et les institutions financières chinoises étant réquisitionnées. La Banque Asiatique des Investissements pour les Infrastructures également. Alors, on va voir cela juste... Alors, c'est un projet qui, comme ça, tout d'un coup est sorti. C'est un projet global qui est sorti de Pékin.
Alors, c'est un projet auquel le président Xi Jinping, comme vous l'avez rappelé, tient beaucoup. Et il l'a lancé en 2013 et il a réuni le mois dernier à Pékin un forum sur les routes de la soie dont les invités d'honneur étaient les présidents russes et turcs. Et ce nom « Route de la soie » est effectivement très évocateur parce que ça évoque cette histoire riche et glorieuse que dont les Chinois sont très fiers et qu'ils veulent remettre sur le devant de la scène.
Alors justement, d'ailleurs, il y a une fonction interne, Laurence Daziano, c'est le fait que ça permet aussi à la Chine d'ancrer son extrême ouest, le Xinjiang, l'ancien Turkestan oriental, qui a toujours été instable et agité.
Tout à fait. Un des premiers objectifs du Parti communiste chinois, c'est d'abord d'assurer l'intégrité de son territoire. Et il y a au Xinjiang une population qui est d'origine musulmane, qui ne fait pas du tout partie de l'ethnie majoritaire chinoise des Han, et qui est assez remuante, on le sait moins, on le sait peu en Occident, mais il y a des attentats et il y a certaines personnes qui sont parties faire la guerre au Moyen-Orient avec l'État islamique. L'objectif de Pékin, donc, pour ancrer cette partie du territoire et conserver l'intégrité territoriale chinoise, c'est de développer économiquement les frontières de manière à ce que la frontière, c'est l'Afghanistan, c'est le Pakistan, donc ce sont des États qui sont inexistants ou très faibles, et c'est d'essayer de économiquement les développer de manière à ce qu'il n'y ait plus d'instabilité qui importe de l'instabilité en Chine.
Et c'est une volonté de desserrement et de désenclavement à travers ou via l'Asie centrale.
Tout à fait. Ça, c'est l'objectif politique des routes de la soie. Et puis, il y a l'objectif économique des routes de la soie. Nous le savons tous, la Chine est en surcapacité de production. Elle a donc besoin de trouver de nouveaux marchés parce qu'en Chine même, on trouve les routes qui ne mènent nulle part. On trouve les aéroports où il n'y a ni avions ni voyageurs. Et donc, il y a besoin de trouver de nouveaux marchés. Et trouver de nouveaux marchés, c'est dans ces régions, donc comme vous l'avez dit, notamment en Asie centrale.
Avec quels moyens alors ?
Alors, les moyens que les Chinois utilisent, ils ont un fonds d'investissement pour la route de la soie qu'ils ont doté de 40 milliards de dollars. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les routes de la soie, ce sont des projets d'infrastructure, puisque les surcapacités chinoises, c'est essentiellement de l'acier et du béton, donc pour construire des infrastructures, c'est estimé à environ 1000 milliards de dollars. Et les Chinois ont créé un fonds spécial. Ils n'ont pas voulu utiliser leur très belle banque qu'ils ont créée, la banque asiatique d'investissement dans les infrastructures qui vient en concurrence de la Banque Asiatique de Développement et de la Banque Mondiale, parce qu'ils veulent garder sa crédibilité. Donc ils ont fait un fonds spécial, et puis surtout ce sont les banques publiques chinoises qui vont financer.
Juste un détail, on m'avait dit, Laurence Daziano, et je précise que vous êtes également membre du conseil scientifique de la Fondapol, on m'avait dit que les banques depuis longtemps que les banques chinoises étaient vérolées, c'est-à-dire qu'elles avaient des créances douteuses, y compris auprès de l'État. Alors ça fait un peu tâche.
Tout à fait. Alors ça, c'est un autre débat économique on ne peut pas rentrer là. Mais effectivement, c'est un très gros problème d'endettement. La Chine est endettée à plus de 270% de son PIB. Et les banques publiques et ses surcapacités, ces entreprises publiques qui créent les surcapacités, en sont notamment une partie importante.
Quelles sont les limites de ce projet ?
Alors, une des premières limites, c'est que ce projet reste quand même assez flou. J'ai tendance à dire que parfois, il est gazeux, parce qu'on ne sait pas vraiment quels sont les pays qui en font partie, quels sont les projets qui sont éligibles aux routes de la soie. Et parfois, on retrouve certains projets qui existaient avant même que soient créées les routes de la soie. Donc là, on ne sait pas trop. Et puis surtout, on se rend compte que la motivation de cette route de la soie, elle n'est pas tant financière, parce qu'en termes de rentabilité financière, tous ces projets dans lesquels ils investissent, la Chine investit dans des pays qui sont fragiles politiquement et économiquement, qui pourront pas vraiment
qui sont pas forcément solvables,
remboursés, voilà, ils sont fragiles financièrement, ils sont minés par la corruption. Donc le retour sur investissement est plus que douteux. D'ailleurs, les Chinois le disent eux-mêmes sur les projets en Asie centrale. Ils estiment que ils vont avoir des pertes d'environ 20 à 40%, mais sur le Pakistan, ils ne se font absolument aucune illusion. Ils savent qu'ils vont perdre 80% de leur mise.
Alors, il y a une dimension géopolitique aussi, c'est évidemment, et d'ailleurs on le voit, là, l'Inde craint, par exemple, un corridor sino-pakistanais. La Russie a son mot à dire, parce que c'est un espace, au moins pour l'Asie centrale soviétique, ex-soviétique, qu'elle connaît par cœur.
Tout à fait. Le projet de la Chine, c'est d'accroître son influence sur ces pays parce que ce sont ses marchés d'exportation. Mais cette volonté d'avoir une influence se heurte aux puissances qui sont déjà en place. C'est-à-dire que aller dans tous les pays stands qui étaient anciennement en Union soviétique, c'est se heurter aussi à la puissance russe. Le Pakistan, comme vous l'avez dit, l'Inde voit d'un très mauvais œil ce rapprochement économique. Or, la principale infrastructure, c'est un corridor routier entre la frontière chinoise et le port de Gwadar, c'est l'accès à la mer chaude. Au Pakistan, c'est l'accès à l'océan Indien pour la Chine, donc c'est très important pour eux. Les routes de la soie, c'est aussi une partie maritime, donc qui va aller jusqu'en Afrique. Pour la première fois, on voit que les Chinois mettent des troupes à l'extérieur, et notamment à Djibouti, où ils se développent beaucoup. Et là, ils ont inauguré, il n'y a pas très longtemps, le train de la liberté, qui était de refaire le train qu'avaient fait les Anglais entre le Kenya et Mombasa, parce que c'était arrivé au port de Mombasa, depuis Nairobi, et ben c'est tout l'arrière-pays qui peut drainer le marché.
Vous me disiez en préparant l'émission l'autre jour d'ailleurs qu'il y avait une sorte de logique aussi de comptoir, y compris jusqu'en Europe.
Tout à fait. Les routes de la soie, c'est d'arriver aux marchés qui sont aujourd'hui les plus matures, les plus riches que sont l'Europe. Donc vous avez une partie, la partie maritime qui va jusqu'en Grèce et jusqu'au port du Pirée, puisque les Chinois ont investi dans un des terminaux du port du Pirée. Et puis, vous avez aussi la partie ferroviaire, puisqu'il y a un train qui part de Chongqing et qui va jusqu'à Duisbourg en Allemagne et Vénissieux en France, et qui fait en 15 jours un périple qu'un bateau, mais deux fois plus de temps à faire, mais pour des coûts moins élevés également.
Oui, c'est une entreprise ferroviaire un peu symbolique, en fait.
Tout à fait.
En conclusion, juste un mot.
Juste un mot, ce qui est important de voir, c'est que l'influence que veut gagner la Chine, ça n'est pas une volonté de remplacer les États-Unis sur la scène mondiale, parce que on en parle beaucoup. C'est une volonté de montrer aux États-Unis que le monde sera multipolaire et que la Chine, dans sa zone d'influence, veut compter. Et d'ailleurs, on voit très bien que les routes de la soie, c'est sur la partie eurasiatique, une zone qui n'est traditionnellement pas une zone américaine.
Oui, qui est un entre-deux, une sorte de non pas de limesse, mais de marche au sens géopolitique.
Tout à fait.
Voilà, merci de cet éclairage très, très précieux, Laurence Daziano. Je rappelle que vous êtes économiste, évidemment, maître de conférence à Sciences Po Paris, et pour vous réécouter, pour vous télécharger, donc franceculture.fr. Merci à nos amis auditeurs qui le font régulièrement.
Merci à vous Thierry Garcin, et merci effectivement à Laurence Daziano qui nous a fait le plaisir d'être avec nous en plateau ce matin. Et demain, Thierry, il sera question d'Iran, si je ne m'abuse.
Voilà, d'Iran, évidemment, dans la reconfiguration, on va dire momentanée, de la région, avec Pierre Azoui, IRSEM, Institut donc de recherche stratégique de l'école militaire. Évidemment, on parlera aussi, par définition, des pays arabes du Golfe arabo-persique.